Des frères en Christ et en humanité, nous allons réfléchir ensemble sur les charismes. Mais la première question qui nous rejoint, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent « Moi, je n'ai pas de charisme. Moi, je n'ai aucun charisme. Ou bien mes charismes sont ordinaires. Je n'ai pas de charisme extraordinaire, je n'ai pas de charisme éclatant. » Est-ce que toutes ces questions peuvent être éclairées dans notre session? Oui, nous allons essayer de voir dans la mesure du possible ce que signifie d'abord le charisme et quelle distinction nous pouvons faire entre le charisme et les dons et les fruits de l'esprit. C'est trois choses à ne pas confondre. Voilà. Ne pas confondre les charismes avec les dons de l'esprit, parce que les charismes même sont les dons de l'esprit. Mais dans la manifestation, ça ne s'emploie pas de la même manière. Et les fruits de l'esprit aussi, nous n'allons pas nous appesantir sur les dons et sur les fruits, nous allons nous concentrer sur les charismes, mais nous ne devons pas non plus les confondre. La première chose que j'aimerais nous demander, qui peut être un exercice que nous allons faire tout de suite même, c'est de nous concentrer et de voir les charismes que nous avions reçus. Peut-être que tu te dis que tu n'as rien reçu, même jusqu'à présent tu le dis que tu n'as rien reçu. Mais le Seigneur comble toujours ses enfants au-delà de leurs attentes et à la mesure, sans mesure de son immensité. Alors moi j'aimerais t'inviter à te recueillir dans un petit moment de silence. Concentre-toi, rentre en toi-même, dans un examen de conscience, vois un peu ce que le Seigneur t'a donné. Quels sont tes charismes? Identifie-les. Parce que l'objectif de notre recollection, bien de notre session, consiste d'abord à découvrir, à identifier les charismes pour pouvoir les exercer, pour pouvoir les valoriser. Si nous n'arrivons pas à les identifier, on ne peut pas non plus les exercer, les valoriser. On ne peut pas non plus les utiliser pour la cause des âmes et le salut de l'humanité. Alors, prends un petit moment, rentre maintenant en toi. Et si tu as besoin de prendre quelque chose pour noter, si tu n'as pas de quoi écrire, Josiane, tu peux nous aider. Et tu vas écrire tes charismes, parce que tu en as. Écris ce qui te vient à l'esprit. Je crois que chacun a essayé de trouver au moins un charisme, n'est-ce pas? Au moins un. Deux. Qui sont ceux qui ont trouvé, bon, pour être un peu discret, qui sont ceux qui ont trouvé un charisme? Un. Oh, un. Waouh, bravo, c'est déjà bon. Deux charismes. Trois charismes. Waouh, c'est beau ça. Quatre charismes. Waouh, c'est beau ça. Cinq charismes. Waouh. Ça fait six maintenant. Voilà, très bien. Ça fait sept maintenant. Huit, note maintenant. Neuf. Ah, huit, neuf. Waouh. Dix maintenant. Oh, même jusqu'à dix. Waouh. Encore plus haut. Onze. Onze, waouh. Douze. Treize. Waouh. Quatorze. Waouh. Quinze. Voilà. Bon, maintenant, je crois que la barre est haute. Bien. Je vous ai donné cet exercice que vous allez continuer après la session. Et l'exercice va vous permettre d'abord d'identifier vos charismes, de les découvrir, de les apprécier pour pouvoir les valoriser et mieux les exercer. C'est ça l'objectif, vous voyez. Donc, maintenant, essayons de voir un peu ce que c'est que les dons de l'esprit. Vous les connaissez déjà, hein? Les dons de l'esprit, ils manifestent davantage le Christ au niveau des personnes. Ils sont donnés pour reproduire en nous l'être de Jésus. Ils sont plus diffus, plus ordinaires, plus permanents, mais combien nécessaires. Donc les dons nous permettent tout simplement, s'il faut retenir, les dons nous permettent de vivre comme le Christ, tout simplement. Les dons de l'esprit nous sont attribués, ou bien l'esprit nous donne les dons pour que nous vivions au cœur de la société, au cœur de l'humanité, comme le Christ lui-même, c'est-à-dire comme d'autres Christ au cœur de l'humanité. Et nous ne devons pas l'oublier de par notre sacerdoce baptismal. Nous sommes le peuple de prêtres, de prophètes et de rois. On ne doit pas l'oublier. Peuple de prêtres, de prophètes et de rois. De par notre sacerdoce baptismal. Ce qui veut dire en d'autres termes que, je ne vais pas vous choquer, vous êtes des prêtres. Vous êtes des prophètes. Vous êtes des rois. Le sacerdoce que nous exerçons, c'est le sacerdoce ministériel. C'est-à-dire ce sacerdoce qui est au service du sacerdoce baptismal. Mais avant tout, on est prêtre sans cesser d'être baptisé. On est diacre, révérend diacre. On est diacre sans cesser d'être baptisé. On est évêque sans cesser d'être baptisé. On est cardinal et pape sans cesser d'être baptisé. Le socle, le soubassement de notre vie chrétienne, de notre foi, c'est la base, le départ, c'est le baptême. On ne doit pas l'oublier. Voilà. Donc, ce que je disais, les dons nous sont attribués, ou bien l'Esprit Saint nous donne les dons pour que justement nous vivions comme le Christ, c'est-à-dire des lieux tenants du Christ, d'autres Christ au milieu du peuple de Dieu. Et quand on se rend compte que mais finalement les dons nous sont attribués pour que nous soyons d'autres Christ au cœur de l'humanité, ça change la dynamique. Voilà. Et quand on se rend compte aussi que nous sommes d'autres Christ pour nos sœurs et frères, vivre comme le Christ aujourd'hui, le Christ qui console, le Christ qui manifeste le visage de Dieu. En nous voyant, nos sœurs et frères doivent découvrir le visage de Dieu. Le visage miséricordieux de Dieu, le visage de Dieu qui console, le visage de Dieu qui apaise, le visage de Dieu qui attire vers le bonheur, le visage de Dieu qui nous appelle à suivre le chemin des béatitudes. Vivre comme le Christ aujourd'hui au cœur de notre société est un impératif pour nous au nom de notre sacerdoce baptismal. Voilà un peu les dons du Saint-Esprit. Bon, les dons du Saint-Esprit sont immenses. On ne peut pas les énumérer, mais l'Église nous propose sept dons du Saint-Esprit que vous connaissez très bien. Maintenant, les charismes nous invitent agir comme le Christ. Maintenant, c'est la différence qu'il faut noter. Vous voyez, comme ça, c'est clair. Par les dons du Saint-Esprit, nous sommes appelés à vivre comme le Christ. Parce que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans cette phrase, comme, ça a toute sa puissance. Comme je vous ai aimé. Donc, on n'a pas d'autre modèle à suivre que le Christ. On n'a pas d'autre chose à faire au cœur de la société qu'à reproduire ce que le Christ nous a enseigné, ce que le Christ nous a donné. On n'a pas d'autre modèle à offrir à l'humanité, sinon à reproduire le modèle parfait, le modèle par excellence qu'est le Christ au cœur de l'humanité. Donc, exercer les dons du Seigneur consiste tout simplement à vivre au cœur de la société comme le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, tout ce que nous allons faire, le modèle est planté devant nous, le décor est planté devant nous, faire tout comme le Christ, ça c'est par les dons. Maintenant, par les charismes, on doit agir comme le Christ. Voilà. Voilà. Les charismes nous permettent d'agir comme le Christ. Le Christ dit, Talitakum, Ephata. Le Christ qui te dit, mais lève-toi et marche. Agir comme le Christ, ça c'est les charismes maintenant. Voilà. Mais la vie du Christ au cœur de la société, ça c'est les dons de l'esprit. Voilà. Et les charismes par exemple, le Christ qui, toute sa compassion pour les malades, le Christ qui a opéré une révolution pastorale en touchant le lépreux. Parce que le lépreux, on ne peut pas le toucher. Il est à l'écart carrément. Mais le Christ, il a osé toucher le lépreux, il a dit, mais je le veux, sois purifié. Donc, par les charismes, nous sommes appelés à agir comme le Christ. Voilà. Parce que, premièrement, on doit vivre comme le Christ et agir comme le Christ. Donc, c'est le lien. Si on retient ces choses, mais c'est le soubassement de la session. Voilà. Et maintenant, les fruits de l'Esprit, Jésus nous a dit, mais à ma suite, vous devez porter des fruits. Nous sommes des porteurs de fruits. En recevant les dons, en recevant les charismes, on doit maintenant porter des fruits. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes des porteurs de fruits. Mais notre fruit est porté à partir du Christ, parce qu'il suffit tout simplement de lire Jean chapitre 15. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et tout sarment attaché à la vigne ne peut pas ne pas porter de fruits, parce que la sève vivifiante qui part de la racine et traverse le tronc, va dans les branches que nous sommes, dans les sarments que nous sommes. Mais tout part du Christ. C'est le Christ qui irrigue les branches qui sont attachées sur lui. Et ça rejoint encore les dons, ça rejoint encore les charismes. On doit être centré dans le Christ. En d'autres termes, parler des charismes, c'est une délocalisation de notre être pour être rempli par la puissance de l'Esprit. Et on n'est plus dans le régime ou bien dans le système de l'auto-référentialité, mais dans un décentrement de nous-mêmes pour nous recentrer sur la puissance de l'Esprit qui se déploie en nous par les dons, les charismes. Et quand on reçoit les dons de l'Esprit, les charismes de l'Esprit, c'est le même Esprit qui donne les dons, c'est le même Esprit qui donne les charismes. Quand on les reçoit, on ne peut pas ne pas être porteuse et porteur de fruits. On ne peut pas recevoir les charismes, recevoir les dons et être infécond, et être stérile, et être infructueux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tout ce que nous recevons de l'Esprit nous permet d'être fertile, fécond, foisonnant dans notre vie de tous les jours. Je crois que nous sommes en train de poser de bonnes bases. Je crois que j'explique très bien les choses. Hein. Voilà. Donc, à partir de tout ce que je viens de dire, le Seigneur comble tellement ses enfants. Le Seigneur comble tellement ses enfants et le Seigneur nous donne les dons, les charismes, mais les fruits viennent de nous. Mais le Seigneur ne peut pas venir travailler en nous sans notre collaboration pour que nous portions des fruits. Saint Augustin a dit, le Seigneur qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Le Seigneur nous a donné les dons, il nous a donné les charismes, mais on doit les travailler et c'est ça qui va nous permettre après de voir les talents. Le Seigneur nous a donné les talents. Vous venez de dire, quelqu'un a reçu un, d'autres a reçu deux, trois, quatre, cinq. Dans la Bible, le Seigneur, il a donné un talent à quelqu'un, deux à quelqu'un, cinq à quelqu'un. Chacun selon sa capacité. Vous voyez? Chacun selon sa capacité. Donc, le Seigneur nous a donné les talents, le Seigneur nous a donné les dons, nous a donné les charismes. Maintenant, il faut les fructifier. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les dons, les charismes, et de ne pas les fructifier, de ne pas les exercer. Donc, l'objectif de notre session se résume ainsi. Découvrir, identifier, d'abord c'est la base. Si on ne part pas de ça, notre objectif sera raté. La base serait d'abord d'identifier, de découvrir clairement, avec la lumière de l'Esprit-Saint, les dons, les charismes qu'on a, en les identifiant, les découvrant, on peut mieux les exercer, on peut mieux les valoriser pour que maintenant, ces dons, ces charismes portent des fruits. Portent des fruits pour deux choses. Parce que toute notre vie chrétienne, ou bien notre vie chrétienne se résume en deux choses, tout simplement. Tout pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, tout simplement. S'il faut résumer en une phrase notre vie chrétienne, vivre comme le Christ, agir comme le Christ, porter des fruits, se résume tout simplement à tout faire pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Ce qui veut dire que quand tu vas exercer les dons et les charismes et les deux choses ne seront pas respectées, alors là, tu ne dois pas. Si je vais exercer les dons et les charismes, et ce ne serait pas pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, alors là, ça n'a pas son sens. Parce que l'Esprit nous donne les dons et les charismes pour que Dieu soit glorifié. Parce que Dieu est la source des dons, Dieu est la source des charismes. Mais en exerçant les dons et les charismes, il faut que les âmes soient sauvées. Et c'est la mission du Christ. Jésus fait de nous les associés de l'œuvre de la rédemption. Il nous a associés malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, mais c'est ça le grand mystère. Malgré nos faiblesses, malgré ce que nous sommes, Jésus nous a associés à l'œuvre de la rédemption. Donc, en exerçant les dons et les charismes qui doivent porter des fruits, nous devons viser les deux choses. Tout ce que je dois faire dans l'exercice de mes dons et des charismes doit être pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. S'il n'y a pas ça, alors, on doit se poser des questions. Ce qui veut dire par ricochet, pourquoi j'insiste sur la gloire de Dieu et le salut des hommes? Parce que quand j'exerce les dons et les charismes, et c'est pour ma gloire, alors là, il y a déviation. Ah oui, oui, on va découvrir tout ça. Là, pour le moment, on pose juste les bases. Si je dois exercer les dons, et c'est pour ma propre gloire, je dois exercer les charismes, et c'est pour mon ostentation triomphaliste, alors, mais, je vais dans un obscurantisme révoltant. Je suis perdu. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la finalité. Quand j'exerce les dons, j'exerce les charismes, je ne dois pas oublier que ça doit être pour la gloire de celui qui est la source des dons et des charismes. Si je n'ai pas ça, là, je suis mal barré, c'est foutu. Exercer les dons et les charismes pour la gloire de celui qui est la source et la genèse des dons et des charismes. Et si je les exerce pour sa gloire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les âmes soient sauvées. Et c'est tout. Voilà. Voilà, en parlant des charismes, maintenant on va avoir, depuis l'Ancien Testament, on vient de poser la base. Hein. Voilà, comme ça on est clair, on sait que bon, voilà, les charismes que vous venez d'énumérer, vous devez dire, mais si j'exerce tel charisme, ça doit être pour la gloire de Dieu, qui est la source, qui est la Genèse, c'est lui qui m'a donné les charismes et les dons. Et quand j'exerce mes charismes, ça doit être inévitablement et impérativement, je n'ai pas de choix pour le salut des âmes. C'est-à-dire, pour le salut des âmes, ça veut dire tout simplement qu'en exerçant mes dons et mes charismes, il faut que les âmes découvrent le Christ, connaissent le Christ. Voilà. Jésus a dit, la vie éternelle est que les hommes te connaissent, toi Dieu le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tout ce que je fais, ça doit être pour la connaissance de Dieu et que les âmes découvrent la lumière de Dieu qui sauve. Voilà. C'est ça. Donc, les bases étant bien posées, on va maintenant voir les charismes dans... Ça, c'est l'introduction. Hein. On va maintenant voir les charismes dans l'Ancien Testament. Est-ce que avant Jésus-Christ, nos grands, nos ancêtres dans la foi, nos patriarches, les prophètes, est-ce qu'ils ont exercé les charismes? Alors, on va se poser la question, est-ce que les charismes dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé de l'Esprit-Saint, on n'a pas parlé de Jésus, mais est-ce que les charismes existaient avant Jésus? De toute éternité, les charismes existent. Et je vais vous expliquer ceci, le mode de fonctionnement de la Trinité. Le Père nous a créés, mais il ne nous a pas créés seuls. Le Père nous a créés avec le Fils et le Saint-Esprit. Rappelez-vous, Dieu a créé, mais dans la création de l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, la première personne du pluriel, pour dire que mais finalement, nous sommes créés par la Trinité. Et nous sommes sauvés par la Trinité. À ne pas oublier, jamais. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui veut dire, fait appel au Fils et à l'Esprit. Dieu nous a créés avec le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Fils ne nous a pas sauvés seuls. Le Fils nous a sauvés avec le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous sanctifie pas seul. Mais le Saint-Esprit nous sanctifie avec le Père et le Fils. C'est ça le grand mystère, pour dire que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont exercé des charismes. Ce n'est pas à la Pentecôte que l'Esprit-Saint a commencé par exister. Ce n'est pas avec la naissance de Jésus que le Fils a commencé par exister. Il a dit, avant que Abraham ne fût, j'existais. De toute éternité, j'existais. Donc, il existait en dehors du temps, il est rentré dans le temps, il est sorti du temps. Avant que le temps n'existe, il est rentré dans notre condition spatio-temporelle. Mais il est encore ressorti dans le temps par l'ascension. Il est sorti dans le temps, mais tout en étant dans le temps encore. Avant que Abraham ne fût, j'existais. Le Christ existait de toute éternité. Et il est rentré dans notre temps par la nativité, par le mystère de l'incarnation. Il a vécu parmi nous et par l'ascension, il est parti, mais il est encore là parce qu'il est l'Emmanuel, Dieu avec nous pour toujours. Et par l'ascension, il est parti, mais le Christ total, on peut le dire, n'est pas encore au ciel. Parce que c'est juste la tête qui est au ciel. Mais nous constituons les membres du Christ, les membres du corps du Christ. Donc la tête est au ciel, mais le Christ total n'est pas encore au ciel. Mais si vous voulez passer par une fenêtre ou quelque part, et la tête passe, tout le corps passe. Ce qui veut dire que si on est membre du corps du Christ et la tête est déjà au ciel, la tête est déjà rentrée au ciel, ça veut dire que mais là où la tête passe, tout le corps suit. La tête ne peut pas aller à gauche et le corps à droite, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que déjà, quelque chose de notre humanité est déjà au ciel. Au cœur de la Trinité, nous ne sommes plus des inconnus. Le Christ a introduit notre humanité au cœur de la Trinité, c'est pour toujours. Quand le Père voit le Fils qui est descendu dans notre histoire, qui a tout épousé de notre histoire, sauf le péché, et qui est monté au ciel par l'ascension, quand le Père voit le Fils, l'Esprit voit le Fils, il voit le visage de l'humanité. Nous ne sommes plus des inconnus. en Dieu. Jésus a introduit notre humanité au cœur de la Trinité. C'est bon comme ça? Donc, juste pour nous dire que j'ai expliqué tout ça, pour nous dire que avant la Pentecôte, l'Esprit Saint existait de toute éternité. Avant la nativité, le Fils existait de toute éternité. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de la révélation. Ce qui existe déjà, on nous le révèle, tout simplement. Dans l'Ancien Testament, déjà, le Seigneur a conféré à ses amis, qui sont les prophètes, des dons par lesquels il parlait à son peuple, consolait son peuple, guérissait son peuple. Déjà au temps de Moïse, sous la motion de l'Esprit, les gens prophétisaient. Déjà au temps de Moïse. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 72 anciens du peuple. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Nous allons lire ça dans Nombre chapitre 11, versets 24 à 29. Exactement. Nombre 11, 24 à 29. Nombre 11, 24 à 29. Ça, c'est Moïse. Nous parlons maintenant du prophète Élie. Le prophète Élie, sous l'action de l'Esprit, a accompli des merveilles. Il arrêta le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. 3 ans même et demi. Il a arrêté le ciel, mais en plus de ça, vous connaissez la belle histoire entre Élie et la reine Jézabel et le roi Akab. Vous connaissez la belle histoire où Élie a fait descendre le feu du ciel qui a tout consumé. Le prophète Élie de Tibé en Galade dit au roi Akab, vous pouvez lire ça dans 1 Roi, verset 17, verset 1. Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. Qui est-il? Vous allez voir ça dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Donc, Élie a ordonné qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu. Ça, c'est l'exercice des charismes. Déjà. Par la prière du prophète Élie, le fils de la veuve de Sarepta, mort, est ressuscité. Vous allez trouver ça dans 1 Roi, chapitre 17, versets 21 à 22. 1 Roi, chapitre 17, versets 21 à 22. C'est le charisme qui s'exerce dans toute sa puissance. Déjà, on est dans l'Ancien Testament. Quand on parle du prophète Élie, c'est autour de 900 avant Jésus. Le roi Akab, c'est autour de 900 avant Jésus. Déjà, vous voyez, il y a l'exercice des charismes depuis. Je continue maintenant avec Élisée. Sur recommandation du prophète Élisée, le général Naaman a été guéri de la lèpre. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner cette fois dans le Jourdain, ta chair reviendra nette. » Nous allons trouver ça dans 2 Rois, chapitre 5, verset 10. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Élisée. On vient de voir Moïse, Élie, Élisée. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Ça concerne Élisée. Nous allons voir maintenant avec le prophète Ézéchiel. Au prophète Ézéchiel, le Seigneur fait des révélations sur son projet de redonner vie au peuple d'Israël qui a perdu espoir. Nous lisons donc. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'amena par l'Esprit du Seigneur et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me dit, prophétise à l'Esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts pour qu'ils vivent. Ézéchiel. Vous allez voir ça dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Ça, c'est déjà très loin de nous. Mais ils ont une telle puissance. Ils prophétisent, et puis les eaux ont retrouvé la chair. Ça, c'est très loin de nous. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On continue et on finit maintenant avec le prophète Joël. Le prophète Joël annonce comment le Saint-Esprit descendra sur toute chair et accomplira les œuvres du Seigneur par les hommes. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards, c'est-à-dire les personnes âgées, par des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Nous allons trouver ça dans Joël chapitre 3, verset 1. Joël 3, verset 1. Donc, récapitulons. Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel et Joël. Ça fait 5. Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel, Joël. Ça fait 5. Donc, dans l'Ancien Testament, on a vu, les références sont là. Vous allez les lire vous-même. Que l'exercice des charismes ne date pas de nos jours. Ça existe depuis. Il suffit d'être dans le Seigneur, d'écouter le Seigneur. On va donner les conditions après pour l'exercice d'un charisme. Je vais les donner après. Pour que les charismes fructifient, quelles sont les conditions qu'il faut? Voilà, on va les dire après. Prenons maintenant les charismes dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ, rempli de l'Esprit Saint, disait pour inaugurer sa mission, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Nous allons voir ça dans Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur qui repose sur Jésus. C'est ce que je disais, que on reçoit les charismes pour les exercer, pour le bien des âmes. C'est ce que ça veut dire, le salut des âmes. Le salut, de son étymologie du latin, qui veut dire salus. Salus, qui veut dire santé. Vous voyez? Donc, quand on parle du salut des âmes, ça veut dire que exercer les charismes pour la santé des âmes. Et quand on parle de santé, il faut prendre la santé dans ces trois dimensions. La santé de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc, quand on exerce les charismes, c'est pour que les gens retrouvent la santé de l'âme, la santé de l'esprit et la santé du corps. C'est pourquoi le 1er janvier, quand on se souhaite les vœux, je te souhaite la santé. Oui, la santé physique. Mais au-delà de la santé physique, il faut souhaiter à l'autre la santé de l'âme. Il faut que ton âme soit en bonne santé. Il faut que ton esprit soit en bonne santé. Et bien après, que ton corps soit en bonne santé. Et l'adage l'exprime très bien. Une âme sainte dans un corps sain. Exercer les charismes, c'est viser une âme sainte dans un corps saint, tout simplement. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a délivré tous ceux qui étaient enchaînés dans les prisons, dans les chaînes, dans la captivité, dans l'esclavage du démon. Jésus les a libérés pour leur donner la santé de l'âme. Tous ceux qui étaient embrigardés par le démon, souvenez-vous de cet homme qui dormait dans les cimetières. Et qui a pris en otage toute une région. Jésus a délivré ce monsieur, il a délivré toute la région. Exercer les charismes, c'est, comme je l'ai déjà dit, le salut des âmes, c'est-à-dire la santé des âmes, que les âmes soient en bonne santé. On se comprend bien. Donc c'est ce que c'est tout le programme de Jésus ici. Hein. C'est tout le programme de Jésus et un programme extraordinaire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction et nous ne devons pas l'oublier, je viens de le dire. On a posé notre base. Nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois par l'onction baptismale que nous avions reçue. Nous sommes des consacrés du Seigneur parce qu'on a reçu l'onction par le baptême. Non, et il m'a consacré. N'oublions pas que l'Esprit du Seigneur nous a consacrés. Et je nous renvoie dans la Bible, comme ça c'est clair. Quand Jésus a reçu le baptême dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? La Trinité s'est manifestée. Le Fils était dans l'eau du baptême. L'Esprit Saint s'est posé sur lui, sous l'apparence d'une forme corporelle d'une colombe. Et la voix du Père éternel se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Au cœur du baptême de Jésus, on voit tout le grand mystère de la Trinité qui se déploie. Le Fils dans l'eau, l'Esprit qui se pose sur lui et le Père qui parle. Dans notre baptême encore aujourd'hui dans l'Église, c'est la même chose qui se répète. Parce que nous sommes des fils dans le Fils bien-aimé du Père. Nous ne sommes pas des fils à part. Mais dans le Fils bien-aimé grand F, nous sommes des fils petit F. Vous voyez? Donc, pour dire que l'Esprit du Seigneur a consacré notre Sauveur, c'est le même esprit, ce n'est pas un autre esprit qui l'a consacré, un autre esprit qui nous a consacré. C'est toujours la même source, c'est toujours le même esprit qui nous a consacré. Vous voyez comment Dieu nous a tellement élevés. Et Jésus dit, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour que les pauvres soient libérés. Et quand on parle de la pauvreté ici, Jésus l'a dit, la première béatitude qui dit, mais heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. La plus grande pauvreté, c'est de ne pas avoir Dieu dans sa vie. On peut être milliardaire, mais si on n'a pas Dieu, on est le plus grand pauvre de la terre. Parce que c'est Dieu qui donne la grande richesse au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Nous chantons dans le psaume. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Nous chantons dans l'invitatoire pour les laudes. Le diacre peut confirmer ce que je dis. Donc, pour dire qu'on peut être milliardaire, mais si on n'a pas Dieu, on est le plus grand pauvre. La plus grande pauvreté, c'est de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Parce que c'est Dieu qui enrichit les dons que nous venons d'énumérer, les charismes. C'est la gratuité totale. On ne les achète pas. C'est Dieu qui les donne gratuitement. Mais on va voir plus tard que mais le plus grand don, le plus beau don, le don par excellence que Dieu a fait à l'humanité, c'est le Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais le plus grand don, le don qui surpasse tous le don qui surpasse tout et tout, et que nous avons reçu, c'est le Fils que Dieu nous a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le plus beau don. On n'a pas d'autre cadeau. À Noël, Jésus dans la crèche, c'est le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu dans la crèche. On ne peut plus, je dis plus maintenant, parce qu'on ne peut plus avoir d'autres cadeaux de Dieu, d'autres dons qui surpassent le Rédempteur. C'est le sommet, il ne peut plus y en avoir, c'est le sommet. C'est fini, c'est pourquoi on dit qu'en Jésus, on a la plénitude de la révélation. Dieu peut faire des pseudo-révélations, se révéler aux mystiques, Padre Pio, Matt Robin, etc. Mais le sommet des sommets de toutes les révélations, c'est dans le Fils. Et c'est fini. C'est la plénitude de toute la révélation. Donc, quand nous parlons de dons et de charisme, la totalité de tout ça, c'est le Christ. C'est le Christ. Et c'est beau ça. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. C'est ce que je viens de dire. Délivrer les âmes. Arracher les âmes à la damnation éternelle. Pour le salut. C'est ça ce que ça veut dire. Pour exercer les charismes. Pour la délivrance des captifs. Arracher les âmes qui sont parquées pour l'enfer. Le psalmiste dit troupeau parqué pour l'enfer. Nos charismes consistent à aller avec le Christ. Arracher les âmes. Pour la vie éternelle. S'il n'y a pas ça, l'exercice des charismes n'a pas de sens. C'est ça le programme de Jésus. Annoncer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le retour à la vue. La plus grande nécessité, c'est de ne pas découvrir les merveilles de Dieu. On peut être aveugle physiquement, mais ce qui est encore pénible, c'est d'être aveugle à l'intérieur. Mais quand Jésus guérit les aveugles, ce n'est pas juste un signe comme ça pour dire que mais je te guéris maintenant, tu peux voir. Mais intérieurement, quand on est aveugle, on ne peut pas découvrir les merveilles de Dieu, contempler la beauté de Dieu dans notre intérieur. Jésus vient ouvrir nos sens spirituels à la grandeur de Dieu. Renvoyer en liberté les opprimés. Tout ça là encore, c'est le salus, les opprimés, ceux qui sont opprimés. C'est le salus, leur donner la liberté. Et pour quand nous parlons de liberté, Jésus a payé le grand prix, le vendredi saint, pour nous donner la liberté. Et la vraie liberté se trouve dans celui qui a tout donné le vendredi saint. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Avec le Seigneur, nous sommes toujours en année de grâce. Il est venu annoncer le salut. Dans l'annonce du salut, il accomplira des œuvres qui sont des œuvres que l'Esprit est sur lui et agit en lui. Il dira aux envoyés de Jean-Baptiste, à cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean. Ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est Jésus qui parle, hein? C'est beau ça. Je vous donne la référence maintenant. C'est Luc 7, versets 21 à 22. Luc 7, versets 21 à 22. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Luc 7, versets 21 à 22. En partant, Jésus confie à ses disciples la mission d'annoncer l'évangile avec la promesse des signes semblables qu'ils accomplissaient et qui suivront le travail de ses disciples. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. La référence est Marc 16, versets 17 à 18. Marc 16, versets 17 à 18. Donc, vous voyez un peu, bon, je finis après, je... Je n'ai pas suivi. Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Le jour de la Pentecôte, les signes ont commencé. Pierre prêche sans crainte et 3000 personnes se sont converties. Il guérit le paralytique devant le temple. Mais Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Acte 3, verset 6. L'aventure a commencé donc. Le chrétien, à son baptême, reçoit le Saint-Esprit avec tous les dons nécessaires pour vivre et agir comme son Seigneur Jésus. Donc, nous pouvons maintenant récapituler. Récapitulons. Nous sommes partis, nous avons posé la base. D'abord, distinction claire entre dons, charisme et les fruits. Les dons nous permettent de vivre comme le Christ et la référence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'autre modèle à suivre que le Christ. Les charismes nous permettent d'agir comme le Christ. Le Christ qui a touché les malades, a manifesté la compassion vis-à-vis des malades, il a guéri les lépreux, les aveugles, les boiteux, les sourds-muets, ressuscité les morts. Lazare, sors de ton tombeau. Et Lazare est sorti. Ephata, Talitha koum. Agir comme le Christ, c'est les charismes. Mais on ne peut pas exercer les dons, les charismes, et ne pas être porteur de fruits. Et la ligne a été claire pour nous, pour les dons, les charismes et les fruits. Et c'est la base. Et en les exerçant, c'est pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Et on est rentré dans l'Ancien Testament. On a commencé par Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel, Joël. Dans l'Ancien Testament, on a vu Jésus, sur qui repose l'Esprit Saint. Et lui-même, il a exercé les dons, les charismes, parce qu'il vient du sein de la Trinité. Et Jésus, ça ne s'est pas arrêté là. Avant de partir, nous sommes dans Marc 16. Il a confié cette noble mission à ses disciples, ce que vous m'avez vu faire. Vous pouvez faire de grandes choses plus que ce que j'ai fait. Et il a donné mandat, il a donné mission à ses apôtres dans Marc 16. Et nous voyons maintenant, après la Pentecôte, Pierre, on a juste cité un exemple, Pierre a exercé ce charisme en disant, mais je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, c'est Jésus. C'est le plus grand don. Au nom de ce Jésus, le Nazaréen, maintenant, lève-toi et marche. La question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, est-ce que toi et moi, on peut dire encore aujourd'hui, lève-toi et marche? Oui, on peut le dire, de deux manières. Ça peut être d'une manière spectaculaire, parce que le même esprit qui a parlé en Pierre, et il a dit, lève-toi et marche, c'est le même esprit aujourd'hui. Le même esprit dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, jusqu'à maintenant, c'est le même esprit, ça n'a pas changé. C'est le même Père, c'est le même Fils, c'est le même esprit, Saint-Esprit, ça n'a jamais changé. Le même Jésus qui a opéré les miracles n'a jamais changé, c'est le même Jésus. Et ce serait le même Jésus pour toujours. On peut le dire d'une manière spectaculaire et extraordinaire, mais tous ceux qui portent des fauteuils roulants sur leur tête et qui sont paralysés à l'intérieur d'eux-mêmes, même s'ils marchent sur les deux pieds, ils sont paralysés dans leur âme, dans leur esprit, ils sont paralysés dans leurs rêves, dans leurs projets, dans leurs désirs. Et ils sont paralysés, n'arrivent pas à faire un pas et après un pas, et qui sont sur place. En vivant comme le Christ, en agissant comme le Christ, c'est-à-dire les dons, les charismes, toutes ces personnes peuvent maintenant commencer par poser de petits pas, peuvent commencer par bouger. Là, il ne s'agit plus de, comme Pierre qui a dit, mais lève-toi, marche. Mais tu peux faire marcher quelqu'un qui a classé ses dossiers, qui dit, bon, je n'avance plus, je n'ai plus de rêve, je n'ai plus de projection sur ma vie. En exerçant nos dons et nos charismes, nous pouvons faire encore marcher les gens à côté de nous. Simon, tu m'arrêtes ou bien Josiane, il faut m'arrêter. Hein? Parce que quand je prends la parole, des fois... C'est l'heure, non? Oui, d'accord. Donc, on va s'arrêter là. Et ce que je peux nous demander comme exercice, c'est de commencer par voir que ce que Dieu a fait, il peut toujours encore le faire aujourd'hui. Il peut le faire par ma pauvre personne, par ma personne qui est peut-être insignifiante, qui n'a pas une grande valeur. Il peut encore le faire aujourd'hui parce que ce Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, et il le sera encore pour demain. Voilà.
nous avons une pause. Vous pouvez aller vous restaurer. Il y a des cafés, il y a de l'eau, il y a des jus de pommes, il y a des gâteaux. Mais le temps passe vite et nous nous retrouvons, vous voyez, dans 20-25 minutes, c'est-à-dire autour de 5h20 ici. Donc, voilà. Merci.
Alors, merci de laisser les carnets dans la salle. On va vraiment les laisser ici. Hein. Merci.
Merci de tout cœur. C'est pas grave, pas grave du tout. Non, non.
Le fait que tu as dit oui,
c'est pas grave. Pas du tout grave. Merci, merci de tout cœur. Non, on va rentrer dedans maintenant. Quand on pose bien la base, la suite. Oui, oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Bonjour, vous allez bien?